La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Notre défi au quotidien, vous montrer que oui, il y a des entreprises qui se portent bien. Oui, il y a des entrepreneuses, des entrepreneurs qui font bouger la France et se réinventent sans cesse. C'est ça, La France bouge. Et nous vous emmenons avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chaussée comment en ce moment, Carole ?
Moi, j'ai des mocassins.
vous avez été obligé de regarder, vous étiez plus sûr. Mais alors, pantoufles, baskets, ballerines, depuis combien de temps n'avez-vous pas sorti vos talons et chaussures en cuir ? Et oui, le télétravail change nos habitudes et les marques s'adaptent. C'est ce que nous verrons avec le patron de la marque Jonac, Marcel Nakam.
Et à la maison, vous préférez quoi, vous, Emmanuel ? Marcher pieds nus, je le sais, en chaussettes, en chaussons. En tout cas, la période est très favorable au secteur des chaussures d'intérieur. Nous verrons que le premier confinement a dopé les ventes de la pantoufle. Souffle à pépère. Sa fondatrice est l'une des dernières à fabriquer des charentaises et ça marche très fort.
On pourrait presque faire un sommaire devinette. Vous savez qui est le numéro 1 mondial des produits d'entretien, Carole ?
Honnêtement, je ne le savais pas avant.
C'est le groupe familial Havel qui fait 80% de son chiffre d'affaires hors de France et ce sera notre saga du jour.
Et vous qui nous écoutez, je suis sûre que beaucoup ne trouvent jamais chaussures à leurs pieds. Eh bien, la maison Falger vous propose des chaussures sur mesure grâce à un scanner 3D. Ce sera notre trophée Europe 1 La France bouge du jour. Ce sera vers 13h45.
Et puis, on est vendredi, donc demain, un emploi. Vous cherchez du travail, tiens, dans le marketing, le design, la technologie. On a 80 postes pour vous. Où ça ? Réponse 13h50.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Bon, vous le voyez, il y a déjà au moins de la bonne humeur pour vous accueillir dans cette France bouge en ce vendredi, comme chaque jour en direct. Tant de pépites à découvrir avec toutes ces entreprises qui se réinventent. Et on en parle aujourd'hui dans le domaine de la chaussure avec notre témoin du jour.
Marcel Nakam, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, comme vous pouvez le voir, vous êtes le directeur général de Jonac, la marque de chaussures. Je suis sûre que nos auditrices, notamment, vous connaissent très bien. Mais savez-vous, mesdames, d'où vient le nom de Jonac ?
Eh bien, la contre... les garçons.
Non, c'est pour les dames, parce qu'elles y vont plus souvent que vous. Eh bien, la contraction du prénom de votre grand-mère, Josette, et de votre nom, Nakam Jonac. Hein, voilà. Je ne me trompe pas. Votre grand-mère qui a ouvert le premier magasin avec votre grand-père rue Saint-Placide à Paris, c'était en 1964. Aurait-il pu imaginer à l'époque que nous vivrions une année comme celle-ci ? En tout cas, pour vous, c'est une année qui a tout changé, puisqu'on ne se chausse plus du tout de la même manière depuis un an.
Tout à fait. Alors, c'est le nom de ma grand-mère Josette et puis également le nom de mon père et de chaque premier de la famille Nakam qui s'appelle Joseph. Mon fils s'appelle Joseph, mon père s'appelle Joseph. Ah oui. Et donc, c'est la contraction, le hasard a fait qu'on arrive à Jonac de cette façon-là. Josette, Joseph et Nakam. Mmh. Et en effet, depuis un an maintenant que la crise a démarré, la consommation a évolué. Les gens, de fait, restent davantage chez eux. Donc, en termes de mode, on était déjà sur une mode qui ne faisait pas la part belle à l'escarpin, loin de là. Et puis là, ça s'est accéléré et toutes les modèles que l'on a tendance à porter chez soi sont devenus des modèles forts. Tous les modèles qui mettent le confort en évidence, comme des boots, des semelles en gomme, ce genre de choses.
Les baskets, j'imagine aussi.
Les baskets. Alors les baskets sont un segment qui a continué sur sa lancée. Et aujourd'hui, il y a un grand relais qui est venu de la part des semelles gomme, qui est un relais à la basket dans le monde de la chaussure.
Vous dites on reste plus chez soi parce qu'on est en télétravail, bien sûr, mais c'est aussi qu'on sort moins, quoi. Il y a moins de mariages, il y a moins de soirées dans les bistrots, d'anniversaires, de fêtes d'anniversaire. C'est ça aussi qui a tout changé.
Tout le segment soir a beaucoup pâti de la crise. Et donc depuis un an, tous les modèles forts, tous les modèles à talons sont des modèles qui ont eu tendance à se réduire au profit du confort.
Alors justement, vous êtes en train de préparer là, l'hiver qui va arriver. Je crois que vous êtes en train de finaliser les collections. Est-ce que vous vous dites qu'il faut revoir votre façon de penser les chaussures là, des mois à venir ? On reste sur cette tendance-là, les chaussures plutôt confort, hein ?
Je pense qu'on reste sur cette tendance-là. En général, dans nos métiers, les modes sont des modes qui durent 2, 3, 4, 5 ans. On est au début d'une mode. Donc à mon avis, cette tendance au confort, d'un point de vue, on va dire, volonté, d'un point de vue génération, est une tendance dans laquelle on est rentré. C'est aussi une tendance qui fait la part belle à la stabilité, au modèle classique, à ce genre de modèle. Donc on va continuer dans ce positionnement-là et on va retrouver, et je pense que nos magasins, mais pas que les magasins Jonac, de tout le secteur, vont être pleins de, de ces semelles, on va dire, chunky, bottes, enfin, on appelle ça comme on veut.
Bikers, vous nous...
Bikers, beaucoup de bikers. Donc ça, c'est une tendance de fond qui, à mon avis, est partie pour durer.
Et alors, ça, c'est pour l'hiver prochain. Mais là, cet été, qu'est-ce qu'on doit porter sur la plage? C'est quoi la tendance
Alors, si, une grosse tendance qui arrive et qui est la tendance du sabot, donc c'est un point fort qui est
qui arrive, qui est déjà, qui existait oui, déjà un peu, qui se renforce.
Qui se renforce. Ça va être vraiment la grosse tendance de l'été, d'après nous. Et puis ensuite, on a tout un tas de sandales assez naturelles, dans des assez simples, avec pas mal de lanières qu'on va retrouver sur toute la saison d'été.
Et toutes ces chaussures, elles sont produites où, je crois, principalement en Europe, mais où ça exactement?
Alors donc nous, notre production est intégralement européenne. On produit principalement au Portugal, qui représente à peu près 75 à 80% de notre production. Et puis ensuite, on a également de l'Espagne et de l'Italie.
Ça a toujours été le cas, le Portugal, parce qu'on a l'impression, là, depuis quelques mois, autour de cette table de la France Bouge, tout le monde va au Portugal ou retourne au Portugal. C'est votre cas?
Alors nous, il se trouve que d'un point de vue stratégique, familial, ça a toujours été le cas. On ne s'est jamais tourné vers le grand import parce qu'on a très vite regardé les business models qui fonctionnaient et nous, on a mis au cœur de notre business model la réactivité. Et donc, la réactivité n'est possible qu'avec un circuit court.
Et donc, ça vous a été bien utile pendant la crise.
Exactement, ça nous a été bien utile pendant la crise. Nos magasins ont bien pu être achalandés sans pâtir de problèmes de transport, sans pâtir de surcoût du transport. Donc ça a été un vrai point fort.
Alors certains se diraient, bah oui, il est bien gentil que son circuit court, mais il y a la France, c'est encore plus proche. Pourquoi on ne produit pas en France hein?
Alors c'est une bonne question.
On essaye de temps en temps d'en poser quelques-unes quand même.
Voilà, alors... La France, par rapport à notre positionnement prix, qui est entre 100 et 150 euros de prix moyen de vente, n'est pas quelque chose qui serait viable économiquement. Donc, en termes de choix de production, on est resté sur le bassin méditerranéen, n'incluant pas la France dans nos lieux de production. En revanche, en étant assez, on va dire, engagé, on fait beaucoup travailler l'artisanat français. Par exemple, nos magasins ne sont faits qu'avec des menuisiers français. Nos produits d'entretien ne sont faits qu'avec une usine française. Notre imprimerie n'est faite qu'avec des entreprises françaises. Donc on essaye de favoriser la France quand on le peut en termes de coûts.
Mais avec les aides à la relocalisation, la réindustrialisation et tout ça, il n'y a pas en ce moment quelque chose à faire pour quand même réussir à produire en France ou avoir une petite gamme française, quitte à ce qu'elle soit plus chère dans vos magasins, mais de dire, bah voilà, on s'y investit parce que nous, Jonac, déjà, on a essayé d'être sur du proche Europe toutes ces dernières années.
Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est vrai qu'on n'est pas dans ces... Actuellement, je ne suis pas dans cette réflexion-là. Vous l'évoquez, ça peut être un point intéressant. Mais c'est vrai qu'aussi, on a un fonctionnement qui est assez particulier parce que nos usines au Portugal travaillent exclusivement pour Jonac.
C'est quoi leur force au Portugal?
Alors, un artisanat historique, c'est un lieu d'industrie de la chaussure depuis toujours. France, Italie, Portugal, un artisanat historique. Des coûts de main-d'œuvre, du coup, qui sont à peu près trois fois moins chers qu'en France. Donc c'est
trois fois moins cher?
Oui, donc ça reste très intéressant. Voilà, sachant qu'on est dans un métier où la part de la main-d'œuvre est assez importante. Dans le coût d'une chaussure, la part de la main-d'œuvre est assez importante.
Marcel Nakam, vous êtes le directeur général de la marque de chaussures Jonac et vous êtes notre grand témoin du jour jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour hein, sur Europe 1 et aujourd'hui encore avec le directeur général de la marque de chaussures pour femmes, Jonac, Marcel Nakam, qui est notre grand témoin.
Alors en ce moment, nous sommes beaucoup à la maison et qu'est-ce que vous préférez à la maison? Marcher pieds nus, en chaussettes, en chaussons? Eh bien il semblerait que le chausson est particulièrement la cote cette année. Bonjour Barbara Lietard.
Bonjour.
Vous avez fondé la Pantoufle à Pépère, c'est une marque qui fabrique des charentaises à M. dans le Nord.
Exactement, à côté de Lille.
Depuis 8 ans, tout à fait. Des charentaises au design complètement revisité. Et c'est vrai que vous avez fait une très 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 bonne année, à tel point que vous n'avez même pas pu répondre à toute la demande, je crois.
Oui, tout à fait. On a fait une très très bonne année. Nos ventes ont vraiment explosé. Alors c'est vrai que le confinement... On m'entend ?
Oui, très bien.
Oui, oui. Le confinement y est pour beaucoup. Hein. Le télétravail qui s'éternise également. Et c'est vrai que la pantoufle à pépère, c'est un peu une promesse de douceur et de confort pour les journées un peu interminables que l'on est obligé de passer chez soi.
Mais comment vous est venue cette idée de redesigner ces charentaises?
Alors, à vrai dire, c'est arrivé d'une manière assez incroyable. C'était un dimanche de décembre où j'ai prêté main forte dans une boutique de prêt-à-porter. J'avais eu la très mauvaise idée de porter des talons. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment super mal aux pieds et j'ai décidé de troquer mes talons contre une paire de charentaises qui étaient en vente dans la boutique. Et je ne connaissais pas du tout ce chausson, j'en avais jamais porté. J'ai trouvé ça vraiment super confortable, très léger, très douillet. Et je les ai
mais
tout de suite...
Vieillot.
Mais un peu vieillot. C'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu tristoune. Et j'ai regardé, en fait, sur le marché d'autres charentaises, parce que j'en cherchais une paire un peu plus à mon goût. Et à la fois en boutique ou sur Internet, je n'ai pas trouvé... je vais reprendre l'expression que vous preniez tout à l'heure, chaussure à mon pied. Et l'histoire a commencé comme ça. Je voulais un projet qui soit plus en adéquation avec mes valeurs aussi. Et c'est tombé à ce moment-là. Et j'ai lancé la pantoufle à pépère comme ça.
Alors, vos valeurs, peut-être, justement. Vous le faites vraiment tradition made in France. C'est un travail très particulier, puisque la Charentaise, c'est une IGP, une indication géographique protégée.
Exactement. Identification géographique protégée. Charentaise, Charente. À la base, le berceau historique de la Charentaise, c'est bien sûr la Charente. Alors, il y a d'autres fabricants. Il n'y a plus que 3 fabricants en France.
Mais vous fabriquez près de Lille.
Alors non, le siège de la pantoufle à pépère est à Lille. Voilà. Nous, on achète toutes les matières premières. La pantoufle à pépère achète toutes les matières premières qui sont donc fabriquées en France aussi. Et elles sont assemblées en Charente avec l'atelier, en fait. Enfin, en tout cas, pas cet atelier-là, mais on travaille depuis toujours avec les mêmes personnes qui sont en Charente.
C'est une obligation, pardon.
Et avec les mêmes machines. C'est-à-dire que vous utilisez des machines traditionnelles, c'est
Alors,
ça
on utilise des machines traditionnelles. Oui, Charentaise, la particularité de la Charentaise pour l'IGP que vous mentionnez il y a quelques instants, c'est d'avoir une fabrication en cousu retourné. Et pour pouvoir produire ces charentaises de manière traditionnelle avec cette fabrication en cousu retourné, il faut des machines qui sont bien spécifiques, avec justement une aiguille qui est crochetée, qui est très très compliquée à produire encore aujourd'hui. Et le gros souci, c'est que le parc de machines qui permet de fabriquer les charentaises de manière traditionnelle est très restreint. Donc on est limité dans la production aussi
bien...
Un jour,
ça pourrait s'arrêter à cause de manque de machines ?
Mais si ces machines-là disparaissaient, ça pourrait...
Si vous n'avez pas pu assez produire cette année, c'est parce qu'il n'y a pas assez de machines disponibles ?
Et que le savoir-faire, et que la maîtrise de ce savoir-faire, qui est vraiment lié à cette fabrication artisanale, est très très difficile aussi à acquérir. Donc la main-d'œuvre qualifiée pour ce type de réalisation est quasiment nulle en France. Enfin, il y a très peu d'ouvriers qui savent produire de cette manière-là.
Mais vous ne pourriez pas demander à ce qu'on vous fabrique exactement la même machine ? C'est quoi ? Ça vous coûterait trop cher ? Il n'y a personne pour la faire ?
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, à l'avenir, peut-être. Mais en tout cas, il faudra aussi pouvoir former des personnes qui puissent utiliser ce genre de machine. Et une précision, mais vraiment millimétrée, pour coudre en fait, la tige, qui est la partie supérieure, sur la semelle. Puisque, en fait, cousu retourné, ça veut dire que la tige est cousue sur la semelle. C'est un produit qui est donc naturel, hein, y a pas de colle, mais ça permet vraiment une vraie durabilité du produit.
Et je crois que vous avez embauché des gens de sociétés justement qui avaient fait faillite pour pouvoir...
Alors c'est pas moi qui les ai embauchés, hein, c'est eux qui, en fait, la boîte historique qui était Rondineau en Charente a déposé le bilan il y a 2 hivers maintenant. Et en fait, il y a 2 personnes qui se sont associées, qui travaillaient dans cette grosse boîte depuis toujours.
Moi, c'est mes partenaires,
qui sont des gens extraordinaires avec de vraies valeurs et qui baignent dans la Charentaise depuis toujours, qui se sont associés et qui ont réembauché en fait le personnel qui était spécialisé dans cette méthode de cousu retourné.
Ah, je suis sûr qu'il y a pas mal d'auditeurs en voiture à la maison qui se disent, bon, ils sont bien gentils, ils n'ont pas demandé le prix, ça doit coûter une fortune vu comme c'est fabriqué. C'est quoi le prix moyen d'une charentaise ?
Alors, le prix moyen d'une charentaise, c'est 55 euros. Franchement, c'est peut-être un peu cher quand on l'entend pour une paire de pantoufles, mais elles durent vraiment dans le temps.
Moi, je peux confesser que je les ai essayées parce que grâce à vous, je viens de savoir le prix de mon cadeau d'anniversaire de la part de l'équipe de la France Bouge. Mais ils me les avaient offerts grâce à tout ça. Et du coup, je peux te dire qu'elles sont très agréables.
La laine, c'est obligatoire ?
Alors, la laine, ça fait vraiment partie du produit parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser, la laine, c'est un 100% laine vierge. Et c'est donc thermorégulateur. Thermorégulateur, ça veut dire que on a chaud, mais pas trop chaud. Ça prend vraiment la température du corps et il n'y a pas de problème de transpiration du tout dans les pantoufles à pépère.
Marcel Nakam, vous êtes notre grand témoin, directeur général de la marque de chaussures pour femmes Jonac. Je crois que vous aussi, vous avez développé ou vous développez en ce moment des gammes de pantoufles.
Tout à fait. On en a du coup développé assez rapidement en prévoyant qu'un confinement aurait lieu début février. Donc, il n'a pas eu lieu, mais c'était tout aussi bien pour nos affaires et pour le business. Les magasins sont restés ouverts. Et donc, on a lancé ça depuis maintenant 2 mois. Ça fonctionne très bien. On a 3 modèles qu'on a designés, un peu mode, avec en laine à l'intérieur.
Et des charentaises, on pourrait en retrouver un jour dans vos magasins, dans le pur style de ce qu'on vient d'entendre.
Écoutez, pourquoi pas une collab. On est très férus de collaboration, de capsules, de ce genre de choses. Donc, pourquoi pas en échanger à ce sujet-là.
Merci Barbara Liétard, vous êtes donc la fondatrice de la pantoufle à pépère, une marque de charentaise revisitée qu'on peut découvrir bien sûr sur internet.
Et nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Marcel Nakam, le directeur général de la marque Jonac.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et on est très heureux chaque jour d'être en direct avec vous de 13h à 14h sur Europe 1 pour La France bouge. On parle aujourd'hui chaussures. Je me permets juste de vous rappeler cette information qui est tombée il y a de cela maintenant une petite demi-heure. On a appris le décès du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre. Il allait avoir 100 ans. Il est donc décédé ce matin au château de Windsor, a fait savoir la famille royale. Et la reine, bien évidemment, se dit très triste et éprouvait un profond chagrin pour son bien-aimé mari. C'est ainsi qu'est citée la reine dans le communiqué officiel. Donc on parle chaussures aujourd'hui avec vous, Marcel Nakam, directeur général de Jonac. Alors depuis le début de l'émission, on aurait presque oublié que vos magasins sont fermés, parce que tout semble bien aller chez vous. Vous vous en sortez bien malgré ça ?
Alors écoutez, bon, déjà je suis de nature optimiste. Ensuite, en effet, les magasins sont fermés depuis à peu près maintenant 3 semaines. On a eu des magasins qui ont fermé dès fin janvier également, centre commercial de plus de 20 000 m², de PACA, enfin voilà. On s'en sort bien parce qu'on a pris le tournant du online depuis maintenant à peu près 5 ans. Et donc, c'est ce tournant-là qui nous a permis de bien résister l'année dernière, qui nous permet de bien résister cette année, en ayant des croissances, on va dire, à 3 chiffres dans ce domaine-là.
Et trois chiffres.
Tout à fait. Et en énorme. Se disant que dès l'année 2021, la part du retail dans le chiffre d'affaires de Jonac sera inférieure à 50%.
C'est-à-dire que la moitié du chiffre d'affaires sera fait par votre site internet ? C'est ça que vous nous dites ?
Alors, d'ici l'année prochaine, la moitié du chiffre d'affaires sera fait par un site internet. Ah oui ? Cette année, les 50% seront dépassés par le site internet plus la vente à l'international.
Alors, pardonnez-moi l'expression, mais grâce à cette crise, vous avez gagné combien d'années sur votre stratégie digitale et numérique ?
Je pense qu'on a gagné 3 à 4 ans dans notre stratégie. Je pense qu'on a gagné 3 à 4 ans parce qu'en termes de gestion de stock, on a pu voir, en fait, on a pu allouer tous les stocks de l'entreprise à un seul point de vente qui est notre site internet, ainsi que les points de vente des partenaires online. Et ayant du coup un niveau de stock suffisant, on a pu voir le potentiel du online, mettre toute l'énergie de l'entreprise au service du online, et c'est ce qui nous a permis de bien résister.
Quand vos magasins vont rouvrir, vous pensez que les gens achèteront moins en ligne et vont plus aller en magasin, ou est-ce que vous pensez que vous allez garder quand même toujours autant de monde
Je pense que l'on va garder autant de monde et sur le site et en magasin. C'est en tout cas ce qu'on a constaté après les précédents confinements. Donc c'est ce qui nous permet d'être plutôt optimistes. Et puis les gros sujets qui sont proéminents aujourd'hui dans le secteur et qui sont importants, c'est tout ce qu'on va appeler, à l'époque on appelait ça le cross-canal, maintenant on appelle davantage ça le figital, on va dire. Mmh. Et en fait, c'est de créer tous ces ponts entre les magasins, le online, ce qu'on appelle le ship from store, c'est-à-dire envoyer des produits du site des magasins vers la cliente finale qu'on aura commandé sur Internet. Enfin, tout un tas de services aujourd'hui. Et ce digital-là fait que les magasins, le online, sont 100% complémentaires et les deux peuvent bien subsister.
Vous avez aujourd'hui, je crois, 70 points de vente en France, une centaine dans le monde. Est-ce que malgré tout, par cette force du numérique et de votre site internet, vous ne vous dites pas, on va peut-être quand même ouvrir moins de magasins demain que ce qui était prévu parce que le numérique compense ?
Alors, clairement, on a la chance d'avoir un réseau qui est de petite taille par rapport à certaines marques qui ont des réseaux 150, 200 magasins. Notre stratégie de réseau est d'être présent dans toutes les grandes villes. Donc, un niveau de grande ville, Paris, Toulouse, Lyon, enfin un niveau de grande ville. Il y en a certaines où on est déjà présent, il y en a quelques-unes qui nous manquent. Et donc, celles qui nous manquent, il y en a à peu près encore 5 au niveau de la France, on va les développer dans les 12 mois à peu près. On ouvrira un magasin physique dans ces villes-là.
Vous avez beaucoup de retours sur Internet ?
Alors, Le marché français, il est à 20-25% de retour. On est complètement en ligne. Si on prend des marchés comme l'Allemagne, par exemple, ils sont entre 50 et 60% de taux de retour. Et si on prend un marché comme l'Angleterre, ils sont entre 35 et 40% de taux de retour. Donc la France est un peu moins...
Vous parlez pour la chaussure ?
Pour l'Internet, on va dire, les ventes Internet. Oui.
Et mais la chaussure, c'est très spécifique quand même.
La chaussure, c'est spécifique. On a entre 20 et 25% de taux de retour. Je pense qu'on peut... Le challenge est d'arriver à maintenir ce niveau-là à 20%, sachant que la tendance de fond dans l'état d'esprit des gens est de plus en plus de faciliter les retours, d'aller vers le retour. Donc le challenge, c'est de rester à ces niveaux de 20-25% sans connaître un modèle à l'allemande ou à l'anglaise où les niveaux de retour sont bien plus élevés.
Mais c'est qui les clients qui viennent en numérique ? Ce sont vos clients traditionnels de Jonac ou grâce à ça, vous captez une autre clientèle ? Je crois que vous êtes plutôt sur les jeunes ou jusqu'à 35-40 ans, la clientèle moyenne de Jonac, mais c'est un autre public qui vient sur Internet ou c'est le même ?
Alors, c'est beaucoup le même. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires de notre site internet, par exemple, on fait à peu près 35% de notre chiffre d'affaires sur Paris, région parisienne. Et le chiffre d'affaires de Paris sur la France, pour nous, c'est à peu près entre 30 et 35%. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que là où on est présent, en physique, et ben c'est là où on fait également du chiffre d'affaires en online. Donc en fait, c'est beaucoup les mêmes clientes, beaucoup des clientes qui passent devant, qui du coup se disent tiens, c'est une enseigne établie, qui a une certaine notoriété et qui derrière vont choper sur Internet. Beaucoup de clientes qui vont en magasin et qui ensuite chopent sur Internet. Beaucoup de clientes qui arrivent en magasin en ayant d'abord regardé sur Internet et sur Instagram ce qui se pratique. Et donc c'est...
Très complémentaire.
C'est très complémentaire.
Vous envisagez de faire de l'homme un jour ? Parce bah oui. qu'Emmanuel était très triste qu'il n'y ait que de la femme.
Écoutez, on a pas fait d'homme jusqu'à présent parce que les tailles de nos magasins étaient trop petites et ne le permettaient pas. Maintenant que la part de notre chiffre d'affaires online est prépondérante, en effet, l'homme peut faire partie des réflexions et je pense qu'à 2-3 ans, ça fait partie des tests que nous ferons assez naturellement.
Oui, donc ce n'est pas une réflexion. C'est-à-dire que d'ici à 2-3 ans, Jonac aura ou tentera de lancer une petite gamme homme.
C'est un test qui pourra se faire d'ici là, en effet.
Parmi les tests aussi, on parle beaucoup de la seconde main. Est-ce que ça fait partie de vos projets de développement ? De nombreuses marques ici qui viennent à la France Bouge nous en parlent. Et un concurrent à vous, Bocage, qui appartient au groupe Eram, notamment s'est lancé là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous travaillez à cela ?
Alors, on réfléchit, comme toutes les enseignes, à tous les sujets de seconde main, durabilité, pérennité. Le challenge dans la chaussure pour faire fonctionner les choses, il est plus grand que dans le prêt-à-porter parce qu'on a plus de mal, enfin les hommes, les femmes auraient plus de mal à imaginer porter les chaussures de quelqu'un qui les a déjà portées. Donc c'est différent un peu du vêtement. Donc c'est un peu là tout le challenge et on y réfléchit. On a rencontré quelques entreprises qui travaillent dans ce domaine-là.
Vous nous avez dit que vous alliez essayer de limiter le nombre de retours tout à l'heure. Comment vous pouvez faire pour éviter ces retours ?
Alors, pour moi, tout part d'un bon référencement sur le site internet. Et un bon référencement sur le site internet est une bonne mise en évidence de, par exemple, ce modèle taille grand. Donc, si vous faites du 38, prenez du 39. La tige de ce modèle fait telle taille. On ne met sur notre site internet que des modèles portés. Comme ça, vous pouvez voir le modèle, comment il va rendre à vos pieds. Vous pouvez extrapoler, vous pouvez imaginer. Donc, voilà tous les challenges qui sont faits pour mettre en évidence un maximum d'informations, faire en sorte que...
Ça, vous le faites. Et vous allez encore y travailler.
On le fait, on va encore y travailler et ça fait partie pour moi des gros sujets qui permettent demain sur des volumes d'affaires
de s'améliorer. Voilà. Marcel Nakam, on aime bien dans La France Bouge revenir sur une marque, une entreprise, une association parfois qui a traversé les années, pourquoi pas les siècles. Eh bien aujourd'hui, nous avons choisi le groupe familial Havel.
Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, pour être très honnête, c'était le cas de Carole et de moi avant de préparer cette émission. C'est pourtant le numéro un mondial des produits d'entretien du cuir et des accessoires pour chaussures, on va dire du cirage. Il est français et c'est Dora Nana qui nous raconte son histoire.
Europe 1, La France Bouge. La saga.
Chez Havel, on est spécialiste de l'entretien du cuir de père en fils et depuis près de 45 ans. D'une petite fabrique, ils vont passer dans la cour des grands en achetant à la fin des années 70 une marque de cirage historique, Saphir, numéro 1 du marché à l'époque. Ils fournissent tous les plus prestigieux maroquiniers, Hermès, Louis Vuitton. Ils vont alors étendre cette marque tout en conservant son savoir-faire traditionnel et ses formules de fabrication de cire vieilles de plus d'un siècle. Marc Mourat, président du groupe Havel, troisième génération.
On fait ça toujours comme ça. Se faisait avant, donc avec des gros chaudrons dans lesquels sont fondues des cires naturelles. La plus connue d'entre elles était la cire d'abeille. On a plus de 31 qualités différentes de cire qu'on utilise, la cire de riz. On mélange tout ça avec l'essence de térébenthine. C'est l'essence naturelle des pins, des Landes, qui ont des vertus nourrissantes, protectrices pour le cuir et qui permettent de faire du cirage comme ça se faisait au début du siècle.
Avec cette recette magique de cirage fabriquée en Charente, le fils va dans les années 80 se lancer avec succès à la conquête du monde. Hong Kong, Japon, Corée. Ils vont devenir les spécialistes du cirage haut de gamme et pour aller encore plus loin, ils vont s'offrir leurs principaux concurrents européens.
Et on s'est pris un petit peu au jeu puisqu'on a racheté les numéro 1 quasiment de chaque pays important historique européen qui avait des unités de cirage. On a racheté également un fabricant de semelles pour devenir le premier fabricant de semelles européen et on est devenu le premier fabricant et premier exportateur de semelles au monde.
Des rachats qui permettent aussi de se diversifier, embauchoirs, brosses, chausse-pieds fabriqués en bois de hêtre ou de tilleul pour des clients en quête de qualité.
Et on fournit avec ces beaux produits tous les bottiers, des gens comme Berluti, comme Weston, toute l'industrie de la chaussure haut de gamme que l'on peut avoir encore en France ou à travers le monde.
Des marques prestigieuses et de grands maroquiniers à la recherche de produits d'exception qui font confiance au savoir-faire de l'entreprise familiale.
Lorsqu'ils sortent une collection, ils nous envoient leurs poteries, qui sont parfois très très spéciales, et on valide donc la qualité de la poterie et on préconise et on fournit des produits destinés à repigmenter, à réparer un petit accident. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait sur mesure. On a une capacité, et c'est aussi ce qui fait notre force, à fabriquer un bidon de 500 ml d'une crème spéciale à coloris dédiée à un grand maroquinier. On ne cherche pas que les grands volumes, on cherche avant tout à satisfaire les gens qui sont à la recherche de l'excellence.
Une excellence qui fait d'eux aujourd'hui les numéro 1 mondial dans la fabrication de produits d'entretien du cuir, vendus dans 80 pays, reconnus entreprises du patrimoine vivant. Avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, ils ont multiplié par 5 leur activité en 5 ans et se sont même octroyé le luxe de racheter en pleine pandémie encore deux entreprises, l'une en Allemagne et l'autre en Australie.
Eh bien, dis donc, on apprend des choses chaque jour dans cette France Bouche. C'était Dora Nana pour cette saga du jour. Marcel Nakam, vous êtes notre grand témoin. Vous êtes le directeur général de la marque de chaussures pour femmes Jonac. Vous êtes, vous aussi, un groupe familial. Quelle force vous en tirez? Car, on le rappelait tout à l'heure, hein, ce sont vos grands-parents qui ont créé cette marque. Comment on vous a transmis, finalement, cette envie de continuer dans l'aventure?
Bah déjà, c'est vrai qu'on baigne dans la chaussure depuis tout petit. Alors les magasins sont fermés, mais si vous passez rue Saint-Placide de temps à autre, vous verrez ma grand-mère qui aime bien aller faire de la vente du haut de ses 80 ans.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Donc on baigne vraiment là-dedans avec une grand-mère passionnée, avec un père tout autant. Donc ça, c'est un vrai point fort. L'entrepreneuriat familial a du bon, c'est qu'on sait que tout le monde avance dans la même direction, tout le monde a les mêmes objectifs, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de jeu, voilà.
Et donc vous pourriez ne pas être d'accord.
Oui, mais en fait, alors, le point positif, c'est qu'on est trois, on est un trio à travailler, ma sœur, mon père et moi. Et donc, quand on est trois, on tranche toujours. Il y a toujours deux contre un. Donc ça permet de toujours trancher. Donc ça, c'est un point qui a été très bon.
Mais vous êtes un groupe engagé, parce que je crois que 5 à 10% de vos résultats sont reversés à des associations. C'est le cas chaque année ?
C'est le cas chaque année. Et ça fait partie des choses aussi où mon père a eu alors, non pas de la vision, parce que ce n'était pas du tout quelque chose de calculé. C'était plus de la philanthropie pure. Et donc, depuis toujours, mon père fait ça. Et du coup, on l'a poursuivi. On communique un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses où il faut communiquer, mais en termes d'humilité, on préfère ne pas le dire. Enfin voilà, donc c'est toujours.
Et il a toujours refusé d'aller en Chine.
Et il a toujours refusé d'aller en Chine, ne connaissant pas les conditions de travail, ne connaissant pas.
Qui allait faire ses chaussures.
Exactement, donc on n'est jamais parti vers la Chine et ça nous a plutôt profité encore plus ces dernières années.
Pour nous accompagner aujourd'hui dans la France Bouge, Marcel Nakam, veuillez m'excuser, le directeur général de la marque de chaussures pour femmes, Jonac.
Europe 1, la France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Elle bouge, elle se chausse, surtout aujourd'hui, cette France Bouge. C'est parti pour les trophées européens. Chaque jour, elle ou ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI. Je suis sûr qu'elle est très bien chaussée et en tout cas déjà à l'écoute. Et devant l'œil attentif de notre témoin du jour aujourd'hui, c'est donc Marcel Nakam qui est le directeur général de la marque de chaussures pour femmes, Jonac.
Bonjour, Maria Carugana, vous voyez, mais tu sais, j'en étais sûre.
C'est parce que vous êtes trop entraîné avant.
Mais oui, c'est ça.
Pourtant, sur votre feuille, vous avez mis des petits points pour bien y arriver.
Et c'est là qu'on se plante. Vous avez 29 ans, vous êtes originaire de Bretagne.
De Paris, région parisienne.
Mais vous êtes aussi installée en Bretagne.
Exactement.
Vous avez créé la maison Felger il y a un peu plus de 3 ans. C'est une marque qui propose des chaussures sur mesure. Mais c'est vous qui allez tout nous expliquer. Vous avez une minute. C'est à vous.
C'est parti. Alors, l'idée de Maison Felger, c'est de complètement révolutionner l'expérience d'achat des clients quand on achète une paire de chaussures. on est parti du premier constat, c'était de se dire que, enfin voilà, qui n'a jamais acheté une paire de chaussures en l'essayant quelques minutes au magasin avec le conseiller de vente et l'esthétisme de la chaussure qui nous l'a fait forcément apprécier, on va dire. Et puis on l'a choisi, on la garde, on se dit bon, on repart avec. Et finalement, on se retrouve dans le placard. Enfin, on se retrouve avec une paire de chaussures qui est dans le placard, qu'on n'a jamais utilisée, qui est source d'inconfort ou forcément de douleur, etc. Et donc, on est vraiment parti de ce constat-là et on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve une solution à ce problème. Un vêtement, on sait si ça nous va ou pas. Une chaussure, pas forcément. Et voilà. Et on s'est inspiré des techniques de podologues, d'orthopédistes, etc. pour proposer au grand public une paire de sur-mesure qui utilise aussi des techniques innovantes comme l'impression 3D, la fabrication sur
juste,
mesure.
Je me permets pour qu'on comprenne peut-être un petit peu mieux. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'une paire de chaussures, je viens vous voir, vous prenez mes mesures, ça prend 5 à 10 minutes, je crois.
C'est ça.
Et derrière, c'est grâce à un scanner 3D que vous arrivez à créer la chaussure avec les meilleurs matériaux possibles.
Et tout ça en 3 quarts d'heure.
Et tout ça en 3 quarts d'heure.
Exactement. On arrive en 4 heures à vous proposer un prototypage d'essayage qui nous permet de savoir si la chaussure vous va ou pas au final.
Et vous avez oublié le plus important, mais ça, comme tous ceux qui viennent nous voir, combien ça coûte. Et là, je peux vous dire qu'en revanche, c'est peut-être le... Mais on va voir ce que va nous dire Nathalie Carré, mais c'est cher, 800 euros.
Entre 800 premier et 1200 prix. Euros, absolument. Voilà. Et c'est cher, mais c'est les prix. Enfin, c'est pas cher, c'est les prix du marché. Pour du sur-mesure, on a toute l'expérience. Et c'est aussi une nouvelle façon de consommer, parce que c'est un produit durable qui est fabriqué en France. 95% de nos composantes sont produites en France par des artisans français. Et on a aussi le côté technologique. Une fois que vous êtes venu en boutique, vous faites scanner les pieds. Et puis après, vous pouvez commander votre paire de Shanghai, de Russie. Et vous êtes sûr d'avoir une paire qui est faite à vos mesures.
Ah oui. Alors. Maria, on va poser la question à Nathalie Carré, hein, c'est notre partenaire de CCI France. Elle connaît tout ça par cœur, elle a regardé les forces et les faiblesses de votre projet. Bonjour Nathalie.
Bonjour Carole, bonjour Maria, bonjour Emmanuel. Nathalie.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous pensez du projet de Maria, Nathalie ?
Alors déjà, moi je suis en chaussons depuis un an.
Hein. Vive le télétravail.
Exactement. Donc, alors les points positifs, des chaussures, il faut le savoir, des chaussures inadaptées sont à l'origine de nombreuses douleurs. Donc, il y a vraiment un intérêt santé à être bien chaussé. Et puis, effectivement, alors le prix est assez élevé, mais effectivement, vous êtes au même prix que votre principal concurrent et ça reste bon marché par rapport à d'autres acteurs plus traditionnels. Et la simplicité pour prendre un rendez-vous, puisque tout se fait en ligne. Je mettrai deux points améliorés. Le site, il manque un peu d'émotion. Ajoutez des photos de vos artisans, expliquez l'histoire de transmission entre les anciens et les jeunes, faites des vidéos du travail réalisé. Et puis de façon pragmatique, ça manque aussi de valorisation des produits. Montrez vos chaussures sous tous leurs angles, parlez-nous des teintes possibles, des options possibles, expliquez les avantages du sur-mesure, faites parler un podologue, bref, expliquez et rassurez pour nous aider à passer de l'intention à l'acte d'achat. On parle quand même de 1000 euros.
Maria, vous pensez quoi de ces remarques ?
Complètement vrai, et c'est ce qu'on vise d'ailleurs. Faut savoir qu'on a 3 ans de R&D, et là on commence on ouvre l'atelier tout récemment, donc c'est vraiment, ça fait partie du jeu et de montrer ce côté transparent aussi, de savoir qui fabrique le produit, qui est derrière la couture de ce produit. Donc voilà, on veut le transmettre à nos clients.
Marcel Nakam, je rappelle que vous êtes le directeur général de la marque de chaussures pour femmes Jonac. Plus que jamais, là, vous avez un œil d'expert. Alors allez-y, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je trouve que c'est en effet très intéressant en termes de business model. Ça répond à une demande. C'est quelque, voilà. Après, quand on connaît tout ce qu'il y a derrière, le prix ne choque pas par rapport au coût de la main-d'œuvre. Voilà. Après, c'est comme toujours, il faut arriver à rencontrer son marché. Je pense que quand on est sur un prix moyen de 1000 euros, ce qui va être important, c'est toute la communication autour du projet, communication qui peut se faire de façon par le biais du site web, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de tout ça. Mais quand on est prêt à mettre une telle somme, de tel montant dans l'acquisition d'une paire de chaussures, il faut pour ça qu'on suscite une émotion, il faut qu'on y ait de la désirabilité. Et ça passe par un marketing relativement fort pour le permettre.
Alors justement, quels sont vos besoins pour l'avenir, Maria ? Je crois que vous cherchez un local. Et puis vous avez besoin de sous.
Alors exactement, on est en pleine levée de fonds. On essaie de lever 1,5 million pour cette année, pour financer l'ouverture de l'atelier. Et pareil aussi, on cherche des forces vives, parce que c'est ce qui manque finalement en France.
C'est-à-dire quoi, des forces vives ?
Du savoir-faire.
Exactement, le savoir-faire, il faut qu'on le transmette avant qu'il ne se perde. Et du coup, on cherche forcément, là on travaille avec des retraités qui forment des plus jeunes, en implémentant aussi de la technologie dans les procédés. Donc on essaie de redorer l'image aussi de l'artisanat et de le moderniser. Et on cherche des nouvelles recrues qui pourraient travailler avec nous.
Ben voilà. Bravo. Merci. En tout cas, donnez-nous de vos nouvelles. Ouais.
Merci Maria Karine Nagaron.
Bravo.
Merci.
Bravo Karine. Vous y êtes arrivée.
Vous êtes la cofondatrice donc de la maison Felger qui fabrique des chaussures sur mesure grâce à la 3D. Votre site internet ?
maisonfelger.fr.
Merci.
Et Nathalie Merci. Carré, on vous dit à lundi avec vos chaussons. Si vous avez comme ça un projet d'entreprise et vous avez envie de venir le défendre, bien vous venez et vous nous envoyez un mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et comme ça vous pourrez peut-être faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Marcel Nakam, vous êtes le directeur général de Jeunac et notre grand témoin du jour. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission.
Europe 1, La France Bouge, Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec le directeur général de Jeunac, la marque de chaussures pour femmes. Et le directeur général, c'est Marcel Nakam, notre invité depuis le début de cette émission.
Et nous sommes également avec Jérémy Atuil. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le cofondateur de Libéo, c'est une plateforme de paiement entre entreprises. Vous existez depuis 2 ans et demi, vous avez 50 salariés et vous êtes, semble-t-il, en pleine croissance puisque vous cherchez 80 nouveaux collaborateurs. Alors, dans quel domaine ?
Alors, dans tous les domaines importants pour nous, et il y a principalement, on commence à développer de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, on se concentre sur des fonctions de développeurs, des gens qui codent, des gens qui font du produit, du management de produits, donc d'équipes techniques. On a aussi besoin de personnes qui sont dans l'analyse de données, des data analystes et des ingénieurs data. Évidemment, pour supporter la croissance, il faut aussi vendre le produit. Et donc, on cherche des sales, des commerciaux qui vont nous rejoindre très rapidement pour densifier les équipes actuelles. C'est les principaux postes, évidemment, une fois. Voilà.
Et des postes qui sont à pourvoir aussi bien à Paris qu'en télétravail. Donc, du coup, tous ceux qui pourraient être intéressés peuvent postuler et rester à l'endroit où ils sont.
Exactement. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, on a dû s'adapter aux méthodes de travail et ça fonctionne relativement bien aujourd'hui quand on a un ordinateur et un bon bureau. On peut travailler très efficacement. On a tous les outils qui permettent de collaborer en équipe. Donc, on a des bureaux évidemment à Paris, mais on a aussi des personnes qui travaillent en télétravail et quand on aura l'opportunité après la période actuelle, on permet aussi aux gens de venir de temps en temps travailler au bureau avec les équipes.
Vous recherchez des jeunes, mais des seniors aussi. Et ça, c'est pas toujours le cas. On cherche souvent des débutants, mais pas forcément des gens qui ont vraiment de l'expérience. Vous en souhaitez ?
Nous, on cherche tout type de talent. Donc, peu importe l'âge, évidemment, on va chercher des forces vives, des gens qui sortent d'école. Mais évidemment, l'expérience est importante et l'expérience, elle s'acquiert avec les années de travail. Donc, on va chercher des talents, quel que soit évidemment leur âge, quel que soit évidemment leur origine.
Alors, ce qui est intéressant, et vous êtes nombreux à insister là-dessus, je vais me demander si la force est vraiment réelle, mais vous aussi, vous cherchez de la curiosité, de la capacité d'apprentissage, de la bienveillance, apprendre en recevant et en partageant ses connaissances, avez-vous dit à nos équipes. C'est vraiment ça le profil que vous recherchez ?
Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu cliché, un petit peu bateau, et tant mieux s'il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent ce genre de critères. Mais effectivement, nous, on cherche pas forcément les gens qui sont, dès qu'ils arrivent, experts dans ce qu'on est en train de réaliser, mais par contre qui ont leur propre expertise et ont envie de développer cette expertise et ont envie d'apprendre, ont envie de progresser sur un certain sujet. Et donc, si on a l'envie et la capacité, c'est ce qu'on va mesurer quand on va s'entretenir avec des candidats, bien sûr que c'est les personnes qui nous intéressent.
Marcel Nakam, vous êtes directeur général de Jeunac. Avec les magasins fermés, vous recrutez quand même en ce moment ?
On recrute quand même au siège, oui, tout à fait. On recrute sur des fonctions online, sur des fonctions logistiques. Et un peu comme Jérémy, on recherche principal critère des têtes bien faites. Et puis après, ce sera à nous de... d'y mettre des connaissances.
Merci Jérôme Attuil, vous êtes fondateur de Libéo, une plateforme de paiement entre entreprises et vous recrutez donc 80 personnes.
Et un grand merci à vous Marcel Nakam, notre grand témoin du jour, le directeur général de Jeunac.
Allez, c'est bientôt l'heure du week-end et puis lundi vous retrouvez Elisabeth Assayag et vous allez parler maison de retraite je crois Emmanuel.
Oui, puisque là aussi bien évidemment elles sont sous tension avec cette crise du Covid et on sera avec l'un des leaders du secteur, en l'occurrence Korian et sa patronne Sophie Boissard.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.